Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous, c'est aujourd'hui la journée africaine de l'environnement, l'occasion pour Priorité Santé de faire le point sur les crises alimentaires et leurs conséquences en termes de malnutrition, particulièrement chez les enfants. Il y a 10 ans, le Niger était frappé par une crise alimentaire, entraînant de graves problèmes de malnutrition. 10 ans après, où en est-on? On estime que dans la région du Sahel, encore aujourd'hui en 2015, près de 6 millions d'enfants sont à risque de malnutrition aiguë. La malnutrition entraîne un affaiblissement de la résistance des enfants et une augmentation du risque de décès lié à des pathologies comme la pneumonie, la diarrhée, le paludisme, la rougeole ou encore le sida. Alors, quels sont les moyens mis en œuvre pour prévenir cette malnutrition et la prendre en charge? C'est ce qu'on va voir avec mes invités. Ils sont deux autour de cette table. Le docteur Isabelle de Fourny, qui est directrice des programmes de l'association Alima, et Vincent Taillandier, qui est directeur des programmes d'Action contre la faim. Si vous avez envie de participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone Stéphane Doyon, qui est responsable régional pour MSF en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, et le docteur Issa Kanta, qui a participé à la mise en place des programmes de prise en charge de la malnutrition au Niger. Docteur Isabelle de Fourny et docteur Vincent Taillandier, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là pour parler de cette question de la malnutrition, un sujet qui est toujours délicat, assez tabou dans les pays. Docteur Isabelle de Fourny, quels sont les pays confrontés à des problèmes de malnutrition? Il n'y a pas que l'Afrique.
Non, il n'y a pas que l'Afrique. Il y a de très nombreux pays dans le monde qui sont touchés par la malnutrition. Je pense qu'on estimait environ à plus de 150 millions le nombre d'enfants touchés par la malnutrition, dont une bonne partie, c'est vrai, située en Afrique et notamment au Sahel. Mais l'Inde, par exemple, est un pays qui rassemble aussi un nombre très très important d'enfants malnutris.
Vous n'êtes pas médecin, Vincent Taillandier. Vous revenez de Somalie, tout juste. Quelle est la situation dans ce pays?
En Somalie, on a une situation très particulière puisque la Somalie sort à peine, peut-être sort, ou en tout cas émerge d'un conflit de près de 23 ans, enfin d'un conflit civil, hein, où il y a eu un vide constitutionnel, sans gouvernement, donc elle se relève aujourd'hui. Mais c'est aussi un pays qui, au-delà de cette crise politique, ce conflit hein, qu'il y a eu, est aussi un pays qui est extrêmement fragile d'un point de vue environnemental, tout comme le sont les pays du Sahel aujourd'hui. Et donc on a une conjonction en fait de vulnérabilités, entre des vulnérabilités environnementales qui génèrent des crises alimentaires en tant que telles, hein, sécheresse, vous savez, déplacement et des crises politiques et je dirais militaires qui amènent à des déplacements de population et qui s'ajoutent en fait, qui se cumulent à des problèmes environnementaux.
Ça c'est pour la Somalie et de façon générale, les pays qui sont confrontés à des problèmes de malnutrition, est-ce que ce sont des causes environnementales, entre autres liées au réchauffement climatique, ou bien des causes politiques?
Bien, on ne peut pas vraiment dissocier en fait. C'est souvent le cumul de ces deux facteurs-là. On parle de facteurs. En fait, si on prend dans la globalité, on parle souvent de facteurs structurels. Donc ça va prendre en compte la faiblesse des dispositifs de santé, des politiques de santé publique, de la capacité, même de la pauvreté est un facteur aussi structurel. Puis ensuite, on va regarder quels sont les facteurs conjoncturels qui viennent effectivement amplifier et augmenter les vulnérabilités des populations qui conduisent à la malnutrition. Et parmi ces facteurs conjoncturels, on va retrouver évidemment des problèmes climatiques, hein, des sécheresses, des événements de sécheresse, des inondations, des problèmes aussi de prédateurs agricoles. Hein. Les criquets, par exemple, sont des prédateurs extrêmement virulents sur le domaine agricole. Et puis, on va aussi avoir des facteurs conjoncturels, type des crises politiques qui vont conduire à des mouvements de population.
La Centrafrique, par exemple.
À la Centrafrique, on pense aussi au Mali. Plus récemment, on pense, ça a été le cas au Tchad, enfin tous les pays aujourd'hui qui sont affectés par de la malnutrition ont souvent aussi, on le constate, eu des épisodes plus ou moins longs de crises politiques et de crises de conflits.
Mais est-ce qu'il y a des études qui montrent réellement le lien entre réchauffement climatique, hein, je vous pose cette question puisqu'on est sur la journée africaine de l'environnement, entre réchauffement climatique et malnutrition?
Oui, dans le sens où nous constatons, en tout cas c'est le cas au Sahel, si on regarde la récurrence des épisodes de sécheresse par exemple, qui sont souvent suivis d'épisodes d'inondations, enfin de problèmes climatiques intenses, extrêmes, mais on se rend compte que dans les 30 dernières années, il y a eu une accélération en fait, des périodes, des événements qui sont de plus en plus fréquents. et intenses dans leur manifestation. On peut regarder aussi simplement, il suffit de regarder le lac Tchad, au milieu du Sahel, et puis on voit bien
qui s'assèche, photos,
qui diminue, et c'est bien un phénomène climatique dans l'ensemble.
Et qui a un impact sur la malnutrition.
Et qui a un impact évidemment sur la malnutrition au sens où ça atteint effectivement l'outil de production agricole et de productivité aussi agricole.
Vous avez peut-être envie de réagir, docteur Isabelle Lefourny?
Oui, je sais pas, ça voudrait dire quand même que le phénomène de la malnutrition augmente, je sais pas si on peut dire ça.
Mais c'est une bonne question d'ailleurs, est-ce que ça augmente la malnutrition ou pas? Est-ce qu'on arrive à répondre à cette question ou vous n'y arrivez pas?
J'en sais rien parce que, en fait, quand on regarde ce qui s'est passé dans le Sahel, avant 2005, la malnutrition était présente. On sait qu'il y a eu ce qu'on appelait des famines dans les années 70 et 80 au Niger, mais cette malnutrition, elle était invisible en fait. Et ce qui s'est passé en 2005 et qui est quand même très intéressant, c'était ce choc technologique là avec l'utilisation des aliments prêts à l'emploi. C'est vraiment une nouvelle technologie qui a permis de rendre visible ce phénomène. Et c'est certain que en 2005, il devait y avoir quelques milliers d'enfants atteints de malnutrition aiguë sévère traités, mais beaucoup plus en réalité. Et aujourd'hui, on estime à 1,5 million d'enfants qui vont avoir accès à ce traitement. Mais ils étaient certainement déjà
ils
là.
Ils existaient quoi. Avant, c'est simplement plus visible. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire aussi que c'est moins tabou? Moi, je rappelle une émission qu'on avait faite avec vous, justement, au moment de cette crise alimentaire au Niger, et vous disiez à quel point c'était tabou. Est-ce que ça l'est un peu moins? Est-ce que les pays reconnaissent plus facilement qu'il y a un problème de malnutrition?
Oui, c'est déjà moins tabou au sein des familles, simplement par l'existence d'un traitement. C'est certain, quand on ne peut rien faire pour sauver son enfant, on a recours à aucune solution. Donc aujourd'hui dans les familles c'est moins tabou, et c'est pour ça que ces aliments étaient assez géniaux, parce qu'en fait ils ont été acceptés, adoptés largement par les populations. Ils étaient pratiques, ils sont pratiques, simples d'utilisation, ils facilitent la vie des mères qui et des familles, des pères, hein, qui ont maintenant la possibilité de traiter leur enfant. Moins tabou par les États, sans doute. Un pays comme le Niger a fait quand même des gros efforts dans la lutte contre la malnutrition.
Et on va parler du Niger après. Voilà. Je vais juste vous poser quelques questions sur, j'allais dire, plus médicales. Quand est-ce qu'on parle de malnutrition? À quel moment parle-t-on de malnutrition?
Il y a différentes définitions, mais celles qu'on utilise dans les pays du Sud dans lesquels on travaille, ce sont des enfants qui ont un petit poids par rapport à leur taille, quoi, qui ont une perte significative de poids. Il y a d'autres types de malnutrition. Il y a ce qu'on appelle la malnutrition chronique, ce sont des enfants qui grandissent lentement, qui ont un déficit pendant les deux premières années de leur vie en nourriture de qualité. Et puis la malnutrition aiguë, donc une perte relativement brutale de poids, elle peut être soit modérée, soit sévère. Et la malnutrition aiguë sévère, c'est une malnutrition qui donne un risque beaucoup plus élevé de mortalité à court terme aux enfants. Et c'est surtout cette malnutrition aiguë sévère, et c'est là que c'est quand même une performance qui a été adressée beaucoup plus massivement ces dernières années, avec comme conséquence une baisse quand même, un nombre de vies d'enfants sauvés et une baisse réelle de la mortalité.
Justement, quel est l'impact sur la... Vous vouliez réagir, Vincent Perrin?
Oui, juste pour revenir sur les chiffres, effectivement, quand on regarde au niveau du Sahel, pour reprendre la Sahel, en tout cas en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui on estime qu'il y a 6 millions d'enfants qui sont atteints de malnutrition aiguë. Puis après, quand on rentre dans la malnutrition aiguë sévère, ce que décrivait Isabelle, on est à peu près sur une population de 1 million et demi à peu près, qui nécessite effectivement un traitement thérapeutique. Donc on rentre dans un traitement beaucoup plus complexe que la malnutrition aiguë, qui peut se faire aujourd'hui grâce à des produits technologiques, comme l'a décrit, comme des pâtes nutritionnelles prêtes à l'emploi, qu'on va distribuer, qui vont être utilisées à domicile très simplement. Mais ce que l'on constate aussi, en tout cas cette année, c'est une baisse en fait relative des cas de malnutrition aiguë, mais une augmentation significative aussi de la malnutrition modérée, qui aussi effectivement rentre dans une malnutrition chronique qui s'installe dans beaucoup de pays et qui est liée aussi, il faut quand même le rappeler, alors les chiffres, vous parliez des chiffres, en 10 ans les méthodes en fait de comptage et de suivi ont énormément évolué. Le choc de 2005 au Niger a beaucoup aidé à avoir un cadre harmonisé au niveau inter-État, mais surtout On est aussi sur une démographie qui est importante en Afrique. Donc en fait, quand bien même on a un outil de production agricole qui s'est amélioré, je pense que beaucoup de gens s'accordent à le dire.
Il y a de plus en plus d'enfants, donc
on a aussi une population qui augmente, et cette population augmentant, ben voilà, on se retrouve avec des finalement des chiffres qui stagnent pour l'essentiel.
Un mot sur l'impact de la malnutrition sur la santé des enfants, docteur Isabelle de Fourny. J'ai commencé à le dire. Évidemment, le risque c'est le décès, mais en fait, comment on explique d'ailleurs l'augmentation des maladies à cause de la malnutrition?
La malnutrition entraîne une déficience immunitaire chez les enfants. C'est ça, en fait, la malnutrition. Ce sont des enfants qui manquent...
Qui sont affaiblis.
Ils manquent de vitamines, ils manquent de différents minéraux. Leur système immunitaire est beaucoup plus faible. Et c'est ça la principale complication. C'est un peu comme... à une échelle différente, mais c'est un peu comme le VIH, quoi. Les enfants meurent de maladies opportunistes, d'autres maladies.
On meurt pas exactement de malnutrition, rarement, mais des conséquences. Voilà, c'est ça. Juste Vincent Taillandier, par rapport aux chiffres que vous donniez là sur ces 6 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition, moi j'ai dit ils sont à risque de malnutrition aiguë, mais quand on dit ça, ça veut dire qu'ils souffrent déjà de malnutrition. C'est ça ce que vous êtes en train de dire.
C'est effectivement une situation, un instant T, on va dire, et effectivement aujourd'hui on estime qu'il y a 6 millions d'enfants qui sont atteints de malnutrition.
C'est encore beaucoup.
C'est énorme. Et bien sûr, après, on parle de 50 millions d'enfants selon les pathologies, entre 50 et 150. Mmh. On parlait tout à l'heure de, ça dépend du taux, du niveau de malnutrition, en fait, qui atteint l'enfant. Mais ce sont des chiffres qui sont évidemment inacceptables pour l'humanité.
Et on va parler plus précisément maintenant de la situation au Niger.
Priorité santé sur RFI.
Et nous avons au téléphone le docteur Issa Kanta, qui est responsable de la gratuité des soins pour les enfants et les femmes au ministère de la Santé du Niger, qui a participé à la mise en place des programmes de prise en charge de la malnutrition au Niger, entre autres avec l'ONG Forum Santé Niger, Forsani. Docteur Issa Kanta, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé pour parler de la question de la malnutrition au Niger. Est-ce que le Niger est toujours confronté à des cas de malnutrition en 2015?
Je ne vais pas répondre par un affirmatif pour vous dire que la situation telle qu'on l'avait imaginée au début était malheureusement pas ça. C'est pour vous dire que les causes étaient beaucoup plus finalement structurelles et conjoncturelles, plutôt lié à des crises, comme on le disait au début. Donc, pour vous donner un peu la situation du Niger, la prévalence de la malnutrition aiguë globale, comme on le dit, ça a toujours été au-delà du seuil d'alerte de 10%, et que les crises alimentaires cycliques font maintenant basculer ces chiffres autour du seuil d'urgence de 15% tel que défini par l'OMS. Donc, de nos jours, aujourd'hui, compte tenu de ces crises conjoncturelles et structurelles, la situation reste quasi stable. Et donc, les causes initiales pour lesquelles on se battait n'ont pas été réglées jusque-là.
Docteur Issa Kanta, je me permets de vous interrompre pour être sûr de bien comprendre ce que vous dites. C'est-à-dire, même en dehors de phase de crise alimentaire, il y a de toutes les manières 10% des enfants qui souffrent de malnutrition.
Bon, ça, c'est les chiffres des différentes enquêtes qui le disent, en fait. Quand on fait toujours des enquêtes annuelles, ou voire même deux fois par an, le taux de la malnutrition aiguë au global, c'est-à-dire les malnutrition aiguës sévères et modérées, sont autour de 10% à minima, mais qui peuvent aller jusqu'autour de 15%. Et donc, pour vous dire que la situation est restée quasi stable sur ces 10 dernières années, malgré les différentes interventions.
Et ça veut dire que vous trouvez qu'il n'y a pas eu de progrès depuis 2005?
Bon, on peut pas dire qu'il n'y a pas de progrès. Les progrès sont au niveau, par exemple, de la prise en charge. On a eu beaucoup d'avancées en termes de démonstration de ce produit phare, spectaculaire, qui est devenu un peu la molécule, si on peut l'appeler ainsi, le traitement de la malnutrition aiguë. On a essayé de démontrer sur cette période qu'il y a effectivement eu des avancées énormes parce que ça a permis de traiter des enfants malades. Donc, avec un taux de mortalité qui a été drastiquement réduit. Donc sur ce plan, on a eu à avoir des avancées. Ça a aussi permis aux différents acteurs impliqués, notamment l'État, les décideurs, je veux dire, les bénéficiaires eux-mêmes, c'est-à-dire les femmes particulièrement qui amènent leurs enfants dans les différents programmes, de prendre conscience effectivement que cette maladie, elle n'est pas taboue. Parce qu'il faut le dire, dans certains contextes, Les gens même le considèrent cette maladie comme étant un mauvais sort jeté à l'enfant parce que l'enfant est rabougri, comme ils le disent, dans la langue locale. Et donc, ce produit a permis de démystifier cette maladie et on l'a montré que ça permet de traiter et de guérir. Et donc, du coup, avec de très bons résultats, notamment une réduction importante de la mortalité liée à cette maladie. Il y a aussi une volonté politique qui s'est affichée progressivement et qui a permis maintenant de s'approprier effectivement cette prise en charge de la malnutrition par les différents décideurs politiques notamment. Il est clair qu'il y a des débats autour maintenant de avec quels moyens il faut prendre ces malades, compte tenu du fait qu'il y a un volume important des enfants à soigner dans les différents centres de prise en charge.
Est-ce que ça veut dire que les mamans... Et est-ce que ça veut dire que les mamans viennent maintenant suffisamment tôt consulter quand justement leur enfant ne va pas bien ?
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc je pense que les familles, les parents et particulièrement les mamans savent aujourd'hui, dès que l'enfant est malade, elles se dirigent tout de suite vers les centres de diagnostic et de prise en charge qui se font de plus en plus proches de leur famille. Et donc en ce sens, on a connu une évolution notable.
Vous vous occupez de la question juste...
Pour aller...
Oui, je vous laisse, je vous laisse poursuivre. Non, je vous laisse poursuivre, docteur Issa Kanta.
Non, pour vous dire qu'en termes d'implication des mamans, je sais qu'il y a, dans certaines zones du Niger d'ailleurs, on a expérimenté une implication effective des mamans qui elles-mêmes arrivent à diagnostiquer leurs enfants malnutris par le simple mesure du périmètre brachial de leurs enfants. Parce que c'est un des critères qui permet de diagnostiquer précocement la maladie. Et donc, il y a des mamans qui de plus en plus s'impliquent pour qu'elles-mêmes diagnostiquent leurs enfants et s'auto-resserrent vers les centres de prise en charge.
Je vais faire réagir Isabelle de Fourny là-dessus, de l'association Alima. Justement, vous avez distribué du matériel de dépistage de la malnutrition aux mamans au Niger. De quoi il s'agit exactement ?
C'est assez simple. En fait, on diagnostique la malnutrition par ce qu'on appelle le périmètre brachial. Donc, c'est un petit ruban qu'on met autour du bras de l'enfant.
Oui, brachial, c'est pour le bras. Voilà. Donc, ça paraît pas évident. Hein, c'est du jargon médical. Voilà. Donc,
on mesure le périmètre du bras.
Voilà, tout simplement.
Avec un petit ruban de différentes couleurs. Et quand le ruban affiche rouge, c'est-à-dire que le bras est très petit et c'est un signe fort de malnutrition, quoi.
Et donc c'est même un système plus intéressant que de peser l'enfant, et surtout beaucoup plus simple.
C'est beaucoup beaucoup plus simple. C'est un autre critère de malnutrition, mais c'est plus simple et c'est beaucoup plus prédictif de la mortalité.
Alors vous avez distribué ça aux mamans au Niger en leur disant quoi ? Alors quand ça atteint le rouge, il faut foncer au centre de santé, c'est ça en gros ?
Tout à fait. Et il y avait beaucoup de doutes sur le fait que, enfin. Pas nécessairement de notre côté, mais il y a beaucoup de doutes sur le fait que les mères soient capables de comprendre et de faire ça. Et or, c'est fait dans les villages parce qu'on appelle des agents communautaires. Donc, ce sont des personnes qui sont quand même peu qualifiées, quoi. Ce sont pas des médecins. C'est quelque chose de simple à faire. Elles l'ont fait facilement et on a vu aucune différence. Enfin. Plutôt du mieux, d'ailleurs, dans les villages où les mamans ont fait ça. Mais moi, nous, on a décidé de mettre ça en place parce qu'on pense que...
Il faudrait que toutes les mamans aient ça, en fait ?
Oui, mais c'est ça déjà, mais c'est une idée plus globale, quoi. Pourquoi ces aliments comme le Plum Peanut ont marché, ou pourquoi la prise de la malnutrition était un succès? Mais c'est parce que c'est les mères qui l'ont fait, quoi. Les mères l'ont fait et on pense qu'en leur donnant plus de moyens, elles vont encore en faire plus et il faut qu'elles sont tout à fait capables de comprendre quand leur enfant est malnutri.
Voilà, vous avez envie qu'elles aient aussi avec elles un thermomètre pour mesurer la température de l'enfant et en gros et de l'aspirine ou du paracétamol à donner à l'enfant en cas de fièvre, ce qui se fait chez nous.
Mais tout à fait parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, je sais pas si on a bien compris, mais le problème auquel on fait face, notamment dans des pays comme le Niger, avec les stratégies actuelles de prise en charge à malnutrition, c'est que c'est vrai, beaucoup d'enfants sont soignés et meurent moins, ça c'est certain, mais chaque année, on est face, enfin, et particulièrement le gouvernement du Niger, à au moins 300 000 malnutris sévères, si on rajoute les modérés, donc des centaines de milliers d'enfants.
Juste après les informations, on va revenir sur cette question de petites trousses pharmaceutiques que vous conseillez aux mamans. Docteur Issa Kanta, vous restez avec nous parce que j'ai encore quelques questions à vous poser. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des crises alimentaires, de leur impact sur les problèmes de malnutrition. À l'occasion de la Journée africaine de l'environnement, 10 ans après la crise alimentaire du Niger, où en est-on? On en parle avec le docteur Isabelle de Fourny de l'association Alima et Vincent Talandier d'Action contre la faim. Et si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Isabelle de Fourny, juste avant les informations, vous étiez en train de nous expliquer le matériel que vous avez de dépistage que vous avez distribué aux mamans au Niger, hein, de dépistage contre la malnutrition, et sur le fait que dans ce petit kit, vous aimeriez bien rajouter un thermomètre et un peu de paracétamol, c'est ça?
Oui, un thermomètre certainement. Aujourd'hui, on n'est pas prêt, mais on pourrait aussi imaginer que des tests simples de diagnostic du paludisme soient utilisés. Les poudres de réhydratation pour les diarrhées, les sels de réhydratation pour les diarrhées pourraient aussi être utilisées. Il y a tellement d'enfants en fait à prendre en charge qu'ils peuvent pas tous être absorbés par le système de santé. Et en fait, comme chez nous, la mère elle a quand même la première soignante et il faut lui donner un petit peu plus les moyens de prendre en charge son enfant sans la transformer en médecin, mais de réagir plus vite et d'avoir quelques outils à la maison. L'organisation du système de santé, c'est quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de progrès en pédiatrie, la prise en charge du paludisme, la prévention du paludisme, la prise en charge de la malnutrition, mais on est face à un nombre d'enfants extrêmement important. Il n'y a pas encore eu ce qui s'est pas passé, c'est qu'il n'y a pas encore eu de gros travail sur la prévention de la malnutrition.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement en termes de prévention? Est-ce que c'est distribuer ce Plum Peanut de façon plus large plus tôt? C'est quoi? Qu'est-ce que vous préconisez?
Moi, ce que je pense, c'est tout à fait vrai que les causes de la malnutrition sont multifactorielles et que avec une lutte contre la pauvreté, un développement économique, un développement de l'agriculture, etc., ça va donner des résultats certainement, mais ça va donner des résultats dans longtemps. Et puis le contexte actuel du Sahel, qui est quand même assez déstabilisé, ne fût-ce que par l'extension des activités militaires de Boko Haram, dans ce contexte-là. Aujourd'hui, le plus rapide et le plus efficace, c'est de donner du lait aux enfants. Les enfants ont besoin de lait pour grandir. Et le lait peut se donner sous forme de lait, comme on connaît, ou sous forme de poudre, ou sous forme d'aliments prêts à l'emploi. Mais c'est ce qu'on a fait en Occident. On a donné du lait aux enfants.
À l'école.
Pour qu'ils aient une croissance normale. Du lait plus des activités médicales organisées, parce qu'aujourd'hui on a les outils, en imaginant en fait délivrer ces activités médicales, en simplifiant la vie des mères, parce que ça c'est quand même super important. Le système médical aujourd'hui, il est pas tellement pensé pour que la mère soit centrale, que ça lui facilite un peu la vie, qu'elle comprenne bien et qu'elle soit un acteur, quoi.
Je voudrais faire réagir le docteur Issa Kanta là-dessus. Docteur Issa Kanta, vous êtes en ligne avec nous depuis le début de cette émission, vous êtes responsable de la gratuité des soins pour les enfants et les femmes au ministère de la Santé au Niger. Ce que vient de dire le docteur Isabelle de Fourny sur la distribution de lait, est-ce que ça vous paraît quelque chose de possible au Niger?
De tout ce qu'on a appris de la gestion des différents programmes, c'est que les causes, de notre point de vue, qui étaient les causes de départ, après ces 10 années-là, n'ont pas jusque-là été solutionnées. Et je voulais mettre sur la liste de ces causes la question du développement au global, la question économique, la question des populations qui sont des questions taboues, par exemple, et bien sûr la question de la qualité des soins, de la disponibilité même des soins. Donc toutes ces questions aujourd'hui sont toujours sur la table, et que pour pouvoir solutionner le problème de la malnutrition globale, il faut les attaquer. Et donc, en ce sens, et quand on fait aussi une analyse des tranches d'âge dans les programmes nutritionnels, on connaît bien les couches les plus vulnérables, les plus à risque de mourir, c'est les moins de 2 ans, par exemple. Et comme disait Isabelle, effectivement, pour cette tranche d'âge de moins de 2 ans, qui devrait avoir une alimentation adéquate depuis la naissance jusqu'à 6 mois, et puis une diversification alimentaire riche, il faudrait effectivement réfléchir à leur disponibiliser des produits de qualité, pas n'importe quel produit. Et le débat est aujourd'hui sur la table avec tous les acteurs impliqués. Et de notre point de vue, malgré les différentes initiatives aujourd'hui qui existent, au Niger en particulier, que je connais très bien, notamment les projets de, par exemple, il y a ce qu'on appelle des communes de convergence, des initiatives d'accélération des objectifs de millénaire pour le développement qu'on appelle communément IAOMD, des projets de Miljuri ici et là. Donc, quelques initiatives commencent à sortir sur les questions de prévention, mais malheureusement, on ne tombe pas d'accord sur une recette unique à même de prévenir cette malnutrition. Et toute la difficulté aujourd'hui, je n'ai pas dit que c'est impossible, mais il est bien possible d'avancer rapidement, je dis bien rapidement, parce qu'on a 10 ans, c'est trop, de mon point de vue, et qu'il faille trouver une solution rapide.
Mais ce que j'entends, docteur Issakanta, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que justement le problème, c'est qu'il n'y a pas une solution, mais c'est plusieurs, vous le dites bien, c'est lié à la pauvreté, c'est lié aussi au nombre d'enfants, donc ça veut dire aussi un accès finalement à la contraception, ça veut dire beaucoup de choses autour, et pas simplement le traitement de la malnutrition, et c'est ça qui est peut-être plus compliqué.
Exactement. Et donc, je pense qu'entre ces différentes questions qui existent, il va falloir c'est vraiment une question de décision, courage politique parfois qu'il faut prendre et qu'il faut avancer rapidement. Je dis bien avancer rapidement parce que
si est-ce que c'est aussi une question de moyens financiers?
C'est clair, il y a une question de moyens qui se pose aussi. C'est clair.
J'avais juste une dernière question, docteur Issakanta. Vous vous occupez de la question de la gratuité des soins pour les enfants et les femmes. Est-ce que justement cette gratuité des soins a aussi un impact sur ces questions de malnutrition, permettent aux mamans d'aller consulter plus facilement?
Ah, bien sûr, c'est indéniable. Le fait que la gratuité, disons, les soins pour les enfants de moins de 100 ans soient gratuits a permis effectivement aux femmes d'accéder dans les structures de santé. Et donc, de facto, les structures de santé profitent pour pouvoir effectivement faire un diagnostic, un dépistage de ces enfants. Donc, c'est des opportunités qui ont été offertes aux femmes et aux enfants pour que le diagnostic soit fait précocement. Et ça, c'est des opportunités qui leur sont offertes. Maintenant, en termes de pérennité, la question se pose toujours sur la pérennité de ces actions-là, qui sont des actions innovatrices. Mais il faudrait réfléchir à la pérennité. Aujourd'hui, je ne reviens pas sur les détails du fonctionnement de la gratuité de soins, ce n'est pas l'objet de ce débat, mais je pense qu'il faudrait effectivement peut-être essayer d'améliorer cette question de gratuité de soins en lien avec les autres initiatives sur la question de la malnutrition. Et je pense que ça apporterait des solutions.
Tout à fait. Merci beaucoup, docteur Issakanta. Je rappelle que vous êtes responsable de la gratuité des soins pour les enfants et les femmes au ministère de la Santé du Niger. On a maintenant au téléphone Stéphane Doyon, qui est responsable régional pour Médecins sans frontières en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, basé à Dakar au Sénégal. Stéphane Doyon, bonjour.
Bonjour Pierre Hédon.
Ce que je constate depuis le début de cette émission, c'est que on dit à la fois qu'il y a eu des avancées depuis 2005 en 10 ans, mais que finalement les chiffres restent à peu près les mêmes sur les taux de malnutrition. Pour vous, il y a quand même, quelles ont été les avancées en 10 ans?
Écoutez, il y a eu plusieurs avancées. Je pense que la première, c'est que la malnutrition, c'est quand même un vieux problème, notamment au niveau du Sahel. Mais un problème dont on parlait très peu hors des circonstances exceptionnelles. Par exemple, quand il y avait une famine, comme en 1973, hein, où il y avait carrément une famine, même les adultes étaient affectés par la faim, ou sporadiquement, quand il y avait une crise nutritionnelle, comme ça a été le cas en 1984-85. En 2005, avec la crise nutritionnelle qu'il y a eu, la réponse qui s'est mise en place, ça a permis quelque part de mettre le problème de la nutrition dans l'espace public, alors qu'avant il était un petit peu caché, on voyait ça plutôt comme un symptôme du sous-développement que comme un problème de santé publique. Et je pense que le grand changement qu'il y a eu en 2005, c'est ça, c'est vraiment la lumière qui a été mise sur ce phénomène et la prise en charge de cette problématique à partir de 2005 sur le Niger et après sur l'ensemble de l'espace sahélien. Si bien que avant, si vous voulez, on va dire dans les années 2000, le nombre de malnutris aigus sévères, donc la forme la plus sévère de malnutrition qui était pris en charge dans le monde sur une année, même dans les années où l'effort consenti était le plus grand, atteignait difficilement les 100 000 enfants. Depuis 2008, il y a plus d'un million d'enfants qui sont traités dans le monde, et maintenant on est plutôt vers les 2 500 000, 3 millions d'enfants. C'est pas qu'il y a eu plus d'enfants qui sont devenus sévèrement malnutris, c'est juste que
il y a plus pris en charge.
Exactement. Et donc ça, c'est vraiment un changement positif. Ensuite, les autres changements qu'il y a eu, c'est que on va dire une attention meilleure sur ces enfants-là, il y a eu énormément de développement technique. Donc les pâtes nutritives dont parlaient mes collègues, et aussi des programmes de prévention qui vont dans le sens de ce que le docteur Le Fournier dit. c'est-à-dire des paquets alliant à la fois la santé et la nutrition et permettant de prévenir la malnutrition des enfants et d'assurer un meilleur développement. Alors après, on connaît très bien cette problématique, hein, c'est-à-dire qu'on sait que au niveau du sel, par exemple, on est quand même dans des espaces où effectivement il y a toute une, on va dire, toute une dynamique géographique et surtout climatique qui fait que entre l'entre-deux saisons, la période de soudure, il y a une forte tension sur les réserves alimentaires au niveau des ménages et le nombre d'enfants malnutris pour les moins de 5 ans atteint vite 15% de la population, et puis si on descend moins de 2 ans, c'est vite 25-30% de cette population-là.
Ce qui reste énorme.
Ce qui reste énorme. Et maintenant, ce qu'il faut, et ce qu'on sait, c'est qu'en prenant en charge ces enfants-là et en les accompagnant avec des paquets correctement étudiés, on arrive à en sauver énormément et on arrive à prévenir leur malnutrition. Les progrès énormes ont été faits. Hein. Si on regarde le Sahel, en 1990, les enfants, sur 1000 enfants qui naissaient, il y en avait 2 à 300 qui mouraient avant l'âge de leurs 5 ans. Maintenant, on est plutôt de l'ordre de 100-120. Donc, il y a eu quand même une forte baisse de la mortalité. Et elle est sans doute due au vaccin, à l'amélioration qui a été faite sur la prise en charge du paludisme, mais aussi à la nutrition. C'est-à-dire que ce qui manque dans les programmes de santé, c'est d'intégrer la nutrition de façon systématique, et pas que sur les cas les plus sévères, mais sur l'ensemble des enfants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant est jeune, on sait que les périodes de tension alimentaire sont très difficiles pour lui, et ça va se ressentir sur son développement, sur sa santé, etc. Et il doit avoir accès à une nourriture adéquate.
Je voudrais faire réagir.
C'est difficile.
Oui, allez-y.
On sait que c'est difficile, notamment au niveau de la période de soudure. Et en fait, ce qu'il faut, bah, c'est quelque part avoir des filets sociaux qui leur donnent cet aliment. Et si vous voulez, aujourd'hui, il existe, par exemple, des programmes de vaccination parce que les vaccins sont subventionnés par Gavi, par exemple. Au niveau du paludisme, il y a le Fonds mondial, il y a UNIPEN. Et au niveau de la nutrition, aujourd'hui, si vous voulez, à part l'aide humanitaire, il n'y a pas. Et c'est vraiment ça qui manque, c'est quelque part rendre ce type de produit disponible et les intégrer dans les paquets de soins.
Parce que Vincent Taillandet, il y aura toujours ces périodes de soudure, c'est-à-dire ces périodes entre deux récoltes où justement bah, on manque d'aliments.
Oui, en effet. Alors avant ça, je dirais, j'inverse aussi pour Action contre la faim, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on ne peut pas faire de nutrition sans aborder la santé. De la même manière que les acteurs de santé se rendent compte aujourd'hui que santé intègre la nutrition. Donc c'est un facteur très positif, je pense, et les politiques de santé publique aujourd'hui, fort effectivement de cette mobilisation et de cette compréhension collective, je pense, intègrent ça de manière assez naturelle.
Et là, on se rend compte que c'est pas simplement aussi un problème de santé, que c'est bien plus large. C'est un problème agricole, un problème de pauvreté. On est bien au-delà de la question de santé. D'ailleurs, on sait bien que les questions de santé sont liées aussi à la question de pauvreté.
Oui, alors c'est un problème beaucoup plus large. Alors, lorsqu'on essaye de comprendre et de se dire comment finalement travailler sur le long terme et améliorer la situation dans le long terme sur des situations comme dans le Sahel, nous savons qu'il y a des crises en fait qui sont régulières, en fait répétitives, comme par exemple des épisodes de sécheresse. Donc on peut hélas effectivement prédire une sécheresse dans les prochaines années, peut-être l'année prochaine, l'année suivante, alors évidemment le plus tard possible, mais sur la base en fait des chroniques que l'on a de climatique.
On pourrait savoir quand est-ce que ça va arriver. Et donc qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là?
Alors, non seulement, c'est pas tellement de savoir, c'est qu'on sait que ça va se produire. Donc on doit s'y préparer, on a cette responsabilité collective. Maintenant, on sait aussi, grâce à des outils notamment d'analyse de la biomasse en fait, on sait prédire en quelques mois en avance l'arrivée d'un épisode dramatique de sécheresse qui va faire que bah, simplement la récolte en fait, la production agricole va s'effondrer, non seulement au niveau d'un pays, au niveau régional.
Eh
bien, à ce moment-là, on a deux techniques. C'est-à-dire, on peut atténuer en fait les effets de cette crise. On parlait tout à l'heure de produits en fait techniques qui permettent de soigner la malnutrition. Il y a aussi plusieurs thèses qui sont en cours sur des produits qui permettent d'atténuer des compléments alimentaires qui ne sont pas encore thérapeutiques, mais qui vont faire distribuer suffisamment en avance, vont pouvoir atténuer effectivement les effets d'une crise alimentaire, notamment sur les jeunes enfants. Maintenant, ça ne suffit pas. Et ces produits sont pas obligatoirement des produits à haute technologie. Au Burkina Faso, Action contre la faim, nous, on travaille avec des producteurs de bouillie, par exemple, qui vont permettre de préparer, d'acheter dans la période
où c'est
moins cher.
Qu'est-ce que vous mettez dans votre bouillie?
Eh ben, dans la bouillie, on va y mettre des céréales, on va y mettre de l'huile, et puis on va y mettre un petit ajout. En fait, on va y mettre des nutriments dedans, et ces nutriments sont souvent importés, mais c'est ce qui va faire la différence, en fait.
Et ces nutriments, c'est quoi pour le grand public, nutriments? Il y a quoi dans vos nutriments?
Bon,
c'est quoi
Isabelle répondre.
C'est des vitamines, du magnésium, des choses comme ça.
Mais des vitamines connues comme la vitamine A, par exemple, très très importante pour le système immunitaire.
Des choses comme ça. Je voudrais vous faire réagir à ça, Stéphane Doyon d'MSF à Dakar. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour prévenir cette malnutrition? On sait la prendre en charge. Maintenant, l'objectif, c'est de la prévenir. Pour vous, il faudrait faire quoi?
Ben, pour moi, c'est simple. C'est il faudrait accompagner l'enfant dès la naissance, en faisant quelque part en le suivant, en faisant les vaccinations de routine. Et sur la fenêtre vraiment critique de 6 à 24 mois, il faudrait lui donner accès justement aux minéraux, aux vitamines et aux nutriments essentiels dont parlent mes collègues. C'est un petit peu ce qu'on fait en Europe. En France, c'est le programme Goutte de lait qui a permis d'énormes progrès sur la réduction de la mortalité infanto-juvénile et puis sur la malnutrition au XXe siècle. En Amérique latine, c'est tous les projets avec un verre de lait à l'école le suivi de l'enfant au niveau médical.
Et pourquoi on n'arrive pas à faire ça sur le continent africain? C'est quoi? C'est un manque de moyens financiers? C'est quoi?
Je pense qu'en fait, pour que ça se fasse, il faudrait subventionner ces produits de la même façon que les vaccins ou certaines molécules sont subventionnées, ce qui a permis d'améliorer énormément la santé de l'enfant. Ça coûterait pas si cher que ça, hein. C'est-à-dire qu'accompagner un enfant de 6 à 24 mois, le complément nutritionnel, ça serait sûrement quelque chose de l'ordre de 30 à 40 euros. Il faut savoir que...
30 à 40 euros routine, par quoi? Pendant les 18 mois dont vous parlez?
Oui, voilà.
Sur 18 mois, ça coûterait que 30 à 40 euros par enfant? C'est rien du tout.
Oui. En prenant vraiment un complément nutritionnel c'est pas de l'alimentation complète de l'enfant.
Non, j'ai bien compris. Oui, c'est le complément simplement.
Quelque part mettre dans son assiette ce qui lui manque en termes de nutriments essentiels.
Isabelle de Fourny, vous vouliez réagir?
Oui, pourquoi tous ces programmes sont pas encore en place aujourd'hui? Enfin, je pensais à ça. Les États du Sahel, ils font face quand même à de nombreux défis, quoi.
Donc il y a politique,
toutes les questions de stabilité politique et la question de la sécurité alimentaire. Et je voulais revenir un peu là-dessus. La question de la sécurité alimentaire, c'est vraiment une préoccupation essentielle, qu'il y ait des bonnes récoltes, que tout le monde ait à manger, que les gens puissent revendre leurs récoltes, qu'ils aient de l'argent. Enfin, c'est toute la question de l'économie. Mais c'est ça qui reste quand même très compliqué à expliquer. C'est que la sécurité alimentaire et la malnutrition, c'est pas exactement la même chose. Il faut pas oublier que au Niger, les taux les plus élevés de malnutrition, c'est dans les zones agricole. Donc c'est pas nécessairement en améliorant l'agriculture qu'on va baisser la malnutrition.
Pourquoi? C'est plutôt dans ces
zones-là. Parce que je reviens, et ça c'est une idée compliquée à faire passer, mais je reviens sur ce que racontait Stéphane Doyon en disant que la malnutrition des enfants de moins de 2 ans, c'est un problème médical. C'est vrai, on dit souvent ce n'est pas uniquement un problème médical, mais si, quand on va chez le pédiatre avec son enfant en Europe, on nous demande ce qu'il mange et comment il est vacciné.
Et on le pèse.
On le pèse, on demande quelle est sa diète, et si la diète n'est pas suffisante, on la renforce. Et c'est vrai qu'entre 6 mois et 2 ans, il faut une alimentation très spécifique qui ne sera pas fournie par l'agriculture, qui sera bien sûr fournie au global, si les gens ont de l'argent, si les produits sont disponibles et si on peut l'acheter ou si c'est gratuit.
Donc quoi, c'est lié à la pauvreté?
Oui, bien sûr, mais bon, voilà, bien sûr, tout est lié à la pauvreté, mais ce qui est important, c'est que, et ça c'est quand même très nouveau, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils qu'on peut utiliser en Afrique, quoi, des outils médicaux simples comme la chimioprophylaxie du paludisme et des aliments simples adaptés aux gamins, adaptés aux petits enfants, mais qui ont la même composition que ceux qu'on trouve en Europe, quoi. Et ça, c'est quand même assez génial. Évidemment, moi, je dis pas qu'il faut pas travailler sur les autres problèmes, et je suis tout à fait d'accord que les États fassent d'autres choix. Maintenant, lutter contre la malnutrition, c'est faire quand même ce choix politique de donner accès à ces aliments qui contiennent notamment du lait aux jeunes enfants, quoi.
Juste un dernier mot parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Stéphane Doyon.
Oui, bah, écoutez, je vais tout à fait dans le même sens d'Isabelle de Fourny, c'est-à-dire que je pense que dans ces pays-là, souvent, ce qui manque, même sur le marché, c'est des compléments alimentaires qui ont la qualité nutritionnelle requise pour les enfants. Il y a sûrement une proportion de la population qui pourrait se les acheter. Après, c'est des endroits où il y a énormément de pauvreté, etc. Et je pense que sans subventionner et sans faire des filets sociaux pour la majorité des familles, on aura une grande difficulté à réduire la malnutrition.
Vincent Taillandi, juste, on a parlé en début d'émission, on a parlé du Niger, on a parlé de la Somalie, il y a pas mal de pays dont on n'a pas parlé, le Sud-Soudan, la Centrafrique, alors là où c'est vraiment lié à des conflits.
Oui, alors tout à fait. Bon, il y a des situations très différentes et lorsqu'on est dans une situation de conflit, ben tout le dispositif public ou collectif s'effondre. À partir de là, bon, on rentre dans une situation où les gens deviennent dépendants d'une aide directe, soit parce que effectivement les services n'existent plus, ou ils se sont les populations ont été amenées à se déplacer, démunies de tout, et donc se retrouvent dans des camps, pour prendre une image connue, et dans lesquels effectivement seule une assistance en fait externe va pouvoir leur permettre de survivre. Mais permettez-moi de réagir sur la question de la sécurité alimentaire. Parce que je crois que ce qui est dramatique, c'est effectivement que la malnutrition, elle est dans les lieux de production agricole. Alors pourquoi ? À qui profite cette production agricole ? D'une part, assez peu finalement aux communautés, et elle est assez pauvre en fait. Parce qu'avec l'émergence en fait, pendant des années, des décennies, d'une influence sur l'économie rentière, hein, ça a énormément déséquilibré la diète en fait des communautés, en fait, et des familles. Et aujourd'hui, je pense qu'il est extrêmement important que les programmes de développement s'orientent non seulement vers la production familiale, d'une part, et d'autre part, qu'elles se...
Vers la variété de la production agricole.
Alors, une production familiale qui permette effectivement aussi une production qui résiste en fait aux aléas climatiques, parce que c'est ça le problème dans le Sahel. N'oublions pas que c'est un milieu fragile. Et qui permette aussi de les aider au long terme. Donc la subvention certainement, mais la subvention suffisamment longtemps pour que la famille ou la communauté puisse bâtir un outil qui soit pérenne.
Juste un petit mot, en quelques secondes, dans un rapport qui est paru en septembre 2014, vous, hein, c'est-à-dire entre autres Action contre la faim, vous critiquez la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, une initiative qui avait été lancée en 2012 au G8 de Camp David, qui était plutôt a priori une bonne initiative. Pourquoi vous la critiquez ?
Alors, c'est une bonne initiative au sens où elle a pour objectif de réduire la pauvreté, le niveau de pauvreté par 2022 de manière très significative en Afrique de l'Est. Là où on la critique, c'est que en fait, c'est plutôt, ça favorise les multinationales, donc une agriculture industrielle, rentière pour l'essentiel, qui va à l'encontre du renforcement justement cette agriculture familiale. Donc c'est là où nous sommes très inquiets en fait des conséquences sur les populations.
Bon,
eh bien, en tout cas, elle ne prend pas assez en compte les effets dommageables qu'il peut y avoir sur les cellules familiales. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas de programmes internationaux. C'est bien effectivement d'avoir effectivement ces projets incitatifs. Mais hélas, encore une fois, on ne parle pas, ou en tout cas pas assez, de l'aide en fait qui est nécessaire au niveau des cellules familiales et des communautés, là où effectivement l'agriculture se fait aujourd'hui, pour éviter aussi qu'on ait un exode rural.
Et pour terminer, on va retrouver la chronique hebdomadaire de Stéphane Besançon, qui est nutritionniste, directeur de santé diabète. Il est basé à Bamako, au Mali. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Claire.
Et quand vous avez entendu qu'on parlait malnutrition, vous vous êtes dit, mais moi justement c'est intéressant parce qu'il y a un lien avec le diabète, ce qui paraît assez étonnant.
Oui, tout à fait Claire. Alors on sait aujourd'hui qu'un enfant exposé à une malnutrition, même modeste, pendant la vie intra-utérine ou au cours des premiers stades de la vie, tout comme les enfants qui présentent un faible poids de naissance, seront plus vulnérables aux maladies non transmissibles s'ils sont exposés à un environnement plus riche par la suite. Cette théorie, appelée hypothèse de Barker, du nom du médecin anglais qui l'a énoncée, fonctionne comme si la mère donnait une prévision de l'alimentation que l'enfant peut attendre à la naissance et dans la première période de sa vie. Si après l'âge de 2 ans, l'environnement nutritionnel de l'enfant et de l'adulte diffère grandement, il existe un risque accru d'obésité, de diabète, mais aussi de maladies cardiovasculaires.
Et c'est ça qui est très intéressant et ce qui nous frappe, nous, depuis un petit moment, c'est qu'on voit dans tous ces pays-là, finalement, de façon parallèle, des problèmes d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires et des problèmes de malnutrition. Est-ce que cette théorie dont vous venez de parler, cette hypothèse de Barker, elle est démontrée aujourd'hui ?
Alors, elle a été discutée pendant très longtemps. Aujourd'hui, elle est démontrée. Et cette démonstration a été réalisée en étudiant des périodes de l'histoire où on sévit de très graves famines. La plus célèbre est l'étude menée aux Pays-Bas qui a permis de suivre pendant plusieurs années des enfants nés de mères enceintes au cours de l'hiver de la faim de 1944. ils présentaient tous à l'âge adulte des taux beaucoup plus élevés d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires que les enfants nés une année ou deux années avant cette période. Et des observations similaires aujourd'hui sont faites à grande échelle en suivant la famine chinoise, plus récemment au Cambodge, en Inde, et beaucoup d'études sont en train de sortir en Afrique.
Est-ce que ça ne devrait pas pousser à repenser finalement les programmes de lutte contre la malnutrition ?
Alors tout à fait. Malheureusement, on se rend compte dans de nombreux pays que les bailleurs de fonds privilégient des approches à court terme qui se bornent en fait à compenser une sous-nutrition aiguë. Or, on voit bien ici que le rattrapage nutritionnel, qu'il soit des mères ou des enfants petits avant la période de 2 ans et après cette période-là jusqu'à la période de 5 ans, n'est qu'une partie de la problématique. Et on devrait avoir des problèmes de suivi nutritionnel d'un enfant qui devrait normalement s'insérer dans un véritable parcours de vie prenant en compte le passé, le présent et le futur de la personne.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Vous avez parlé de la grossesse, on sait aussi que le fait d'avoir été malnutri enfant augmente le risque de diabète. Une réaction par rapport à ça, Isabelle de Fourny, effectivement, on devrait penser plus global.
Oui, oui, tout à fait, mais les projets les plus intéressants actuellement, et Stéphane Doyon en parlait rapidement, sont des projets qu'on appelle 1000 jours, donc ce sont des projets qui prennent en charge la maman dès la conception et l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans, dès le début, en ayant une nutrition correcte,
une vaccination et des soins de santé. Et pour justement éviter la malnutrition des mamans. Voilà. Merci beaucoup à tous d'être venus pour parler de ces questions de malnutrition. Demain, on parlera de l'endométriose. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi ou au 33 1 84 22 75 75.